Pourtant, ce ne fut ni M. Ward ni le docteur Willett qui abattirent la carte suivante. Le père et le médecin, déconcertés face à un ennemi intangible, étaient restés désœuvrés, tandis que les lettres dactylographiées de Charles à ses parents se faisaient plus rares. Le premier du mois arriva, et avec lui toutes sortes de règlements financiers qui mirent en émoi les employés d'une certaine banque. Les responsables qui connaissaient Charles se déplacèrent jusqu'au bungalow afin de savoir pourquoi tous ces chèques récents semblaient être des faux grossiers. Ils furent en partie rassurés lorsqu'il leur expliqua qu'affecté récemment par un choc nerveux, il avait partiellement perdu l'usage de l'écriture. Il lui était devenu presque impossible de tracer des caractères, preuve en était que depuis peu, il tapait à la machine tous ses courriers, même ceux adressés à ses propres parents, qui pourraient d'ailleurs en témoigner. Les banquiers ne mirent pas en doute ces explications finalement plausibles, pas plus qu'ils ne prêtèrent réellement attention aux rumeurs de Pawtuxet, mais ils furent étonnés par les propos confus du jeune homme qui démontrait une méconnaissance totale de tout ce qui touchait aux affaires financières, dans lesquelles il s'était pourtant toujours montré très expert. Ils ne pouvaient trouver aucune explication rationnelle à cette amnésie soudaine. D'autre part, bien que ne connaissant pas très bien Charles Ward, ils ne purent s'empêcher de remarquer un changement dans sa manière d'être et de parler. Il le savait versé dans l'archéologie, mais même l'archéologue le plus passionné ne se comporte ni ne parle de façon si désuète. Tous ces détails mis bout à bout, la voix enrouée, le tremblement des mains, les pertes de mémoire, les manières archaïques, ne pouvaient être les symptômes que d'une affection grave, et ils décidèrent qu'une conversation sérieuse avec M. Ward Senior s'imposait. Le 6 mars 1928, il y eut une longue réunion dans le bureau de M. Ward, à l'issue de laquelle le malheureux père convoqua le docteur Willett comme une sorte de dernier recours. Celui-ci examina les signatures gribouillées sur les chèques en les comparant de tête avec l'écriture de la dernière lettre si étrange qu'il avait reçue. Elle avait radicalement changé et pourtant cette nouvelle écriture lui semblait familière. Elle avait une allure archaïque et ne ressemblait en rien à celle du jeune homme. C'était étrange. Où avait-il pu bien voir cette écriture avant? Quoi qu'il en soit, il était cette fois clair que Charles avait perdu la raison. Il était non moins évident qu'il n'était plus en état de gérer ses biens ni d'entretenir des rapports normaux avec le monde extérieur. Des soins médicaux étaient devenus indispensables, et ce dans les plus brefs délais. C'est à ce moment que l'on fit appel aux psychiatres, les docteurs Peck et Waite de Providence, ainsi que le docteur Lehman de Boston, à qui leurs confrères et M. Ward exposèrent l'affaire dans tous ses détails. Ils examinèrent minutieusement tous les livres et les documents que Charles avait laissés dans sa bibliothèque où la réunion avait lieu, ainsi que les notes du docteur Willett. Après s'être familiarisés autant que faire se pouvait avec ce cas inhabituel, ils tombèrent tous d'accord sur un point. Les travaux auxquels Charles se livrait auraient ébranlé la raison de n'importe quel être sensé. Il souhaitait naturellement rencontrer le jeune homme et prendre connaissance des documents qu'il tenait secrets, mais pour cela, il fallait aller au bungalow. Le jeudi 8 mars, les docteurs Willett, Waite, Peck et Lehman, ainsi que M. Ward, allèrent rendre visite à Charles Ward sans dissimuler la raison de leur venue, soumettre leur nouveau patient à un interrogatoire détaillé. Charles fut un peu long à se présenter, quand il arriva enfin très agité et imprégné de ces horribles odeurs de laboratoire. Il se montra très docile, reconnaissant qu'il souffrait de perte de mémoire et d'un certain déséquilibre nerveux qu'il attribuait à ses recherches excessives. Il ne fit aucune difficulté quand on lui demanda de s'installer ailleurs, et mis à part les problèmes d'amnésie, il semblait doté d'une intelligence très vive. Sa conduite aurait rassuré les psychiatres, n'eussent été ses idées et ce langage d'un temps révolu qu'il s'obstinait à employer, trahissant ainsi sa déconnexion avec le monde réel. Sur ses travaux, il ne révéla rien de plus que ne connaissaient déjà ses parents ou le docteur Willett. Quant à la fameuse lettre du mois précédent, il fallait l'attribuer à une dépression passagère. Il affirma que son bungalow ne possédait ni bibliothèque ni laboratoire secret et fournit quelques explications abracadabrantes pour justifier que l'odeur qu'il dégageait ne se retrouvait nulle part dans la maison. Quant aux rumeurs des villageois, elles n'étaient qu'invention due à l'insatisfaction de leur curiosité. Le docteur Allen, il ne savait pas exactement où il se trouvait, mais ne doutait pas que ce dernier reviendrait quand on aurait besoin de lui. Au moment de payer ses gages au Portugais, qui n'avait pas dit un mot au médecin, et de verrouiller les secrets du bungalow derrière la porte, Ward ne montra aucun signe de nervosité, si ce n'est une tendance à s'immobiliser de temps à autre comme s'il guettait un bruit lointain. Il était calme, philosophiquement résigné. Cet éloignement forcé n'était qu'un avatar mineur, une obligation dont il pourrait se dégager une fois pour toutes, à condition de n'y opposer aucune résistance. Il était convaincu que sa supériorité intellectuelle lui permettrait de surmonter tous ses embarras ou son amnésie, sa voix perdue, son comportement excentrique et le secret de ses activités l'avaient conduit. Il fut convenu que sa mère ne serait pas mise au courant et que M. Ward lui enverrait dorénavant les messages dactylographiés. On emmena Charles dans la clinique du Dr. White à Connecticut Island, un endroit calme et arboré où il fut mis en observation. C'est à ce moment qu'on remarqua sa déplorable condition physique, le ralentissement métabolique, l'altération de la peau, les réactions nerveuses disproportionnées. Le docteur Willett en fut le plus chagriné, car ayant connu Charles depuis sa naissance, il ne pouvait que trop bien constater l'étendue de son mal. Sa petite tache de naissance olivâtre sur la hanche avait disparu, cependant qu'une cicatrice noire s'était formée sur le thorax, ce qui amena le médecin à se demander si le jeune homme ne se serait pas soumis à la marque des sorciers dont on racontait qu'elle était apposée la nuit dans des réunions secrètes. Le docteur ne pouvait s'empêcher de penser au compte-rendu des procès de Salem que Charles lui avait montré quand il se confiait encore, où l'on pouvait lire « Monsieur G.B. a nuitamment apposé la marque du malin sur Bridget S., Jonathan A., Simon O., Délivrance W., Joseph C., Suzanne P., Méitable C. et Déborah B. » Le visage de Charles le bouleversait aussi, jusqu'à ce qu'il finisse par découvrir pourquoi. Au-dessus de l'œil droit du jeune homme, il y avait quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué pendant toutes ces années, une petite cicatrice qu'il avait observée sur le portrait de Curven qui prouvait que les deux hommes avaient dû se soumettre au même rituel abominable de scarification lors de leurs quêtes occultes. Pendant ce temps, on surveilla de près toute la correspondance adressée à Charles Ward et au docteur Allen, qui ferait expédier chez M. Ward à Prospect Street. Willett n'espérait pas y trouver grand-chose, pensant que les communications importantes devaient se faire par messager. Cependant, fin mars, une lettre adressée au docteur Allen arriva de Prague, qui plongea le docteur Willett et M. Ward dans des abîmes de perplexité encore plus profonds. Elle était rédigée et calligraphiée à l'ancienne. Kleinstrasse 11, Altstadt, Prague, 11 février 1928. Frère en Almonsin Metraton. J'ai reçu ce jour votre lettre relatant ce qui est advenu des selles que je vous envoyais. Tout est allé à la traverse, ce qui démontre que les stèles avaient été changées quand Barnabas récolta les spécimens. Il en est souvent ainsi, comme vous l'avez déjà constaté avec la chose que vous avez obtenue dans le cimetière de King Chapel en 1769 et avec ce que H a récolté dans l'ancien cimetière en 1690, qui faillit bien avoir raison de lui. J'ai invoqué pareille chose en Égypte il y a 75 ans, qui m'a fait la cicatrice que le garçon vit en 1924. Comme je vous l'ai déjà dit, n'appelez pas ce que vous ne pouvez dominer, que cela soit à partir des selles ou des sphères au-delà. Ayez toujours prêts les mots pour révoquer et arrêtez-vous s'il y a le moindre doute sur qui est avec vous. Dans 9 cimetières sur 10, les pierres ont été changées et vous ne pouvez avoir de certitude avant d'avoir interrogé la chose. J'ai eu ce jour des nouvelles de H qui a eu des ennuis avec les soldats. Il regrette vivement que la Transylvanie soit passée de la Hongrie à la Roumanie et déménagerait volontiers si son château n'était pas plein de ce que nous savons. Mais il vous l'écrivit sans doute. Dans mon prochain courrier, vous trouverez quelque chose provenant d'une tombe d'Orient qui vous ravira. Vous connaissez G de Philadelphie mieux que moi. Faites-le surgir en premier si vous le souhaitez, mais n'en usez pas trop durement avec lui à le rendre difficile, car je dois lui parler ensuite. Yoxotot Neblotzin, Simon O. à Monsieur J. C. à Providence. Totalement hébété à la lecture de ces insanités démentielles, Monsieur Ward et le docteur Willett s'arrêtèrent un moment. Et ce n'est que par degrés qu'ils finirent par admettre ce que cette lettre signifiait. Ainsi, c'était le docteur Allen, destinataire de cette lettre, qui dirigeait tout à Pawtuxet, ce qui expliquait également le post-scriptum de la lettre de Charles. Mais pourquoi était-elle adressée à la fin à Monsieur J. C.? La réponse était évidente, mais il y a des limites à la monstruosité. Qui était ce Simon O.? Était-ce le vieil homme que Charles avait rencontré à Prague 4 ans auparavant? Peut-être, mais dans les siècles passés, il y avait déjà un Simon O. Simon Horn, alias Jedediah Horn de Salem, qui disparut en 1771 et dont le docteur Willett reconnaissait l'écriture identique à celle des formules sur les photostatiques que Charles lui avait montrées autrefois. Quelles horreurs, quels mystères, quelles abominations contre nature étaient de retour à Providence après un siècle et demi. Le père et le praticien, incapables de prendre une décision, allèrent voir Charles à la clinique et l'interrogèrent en douceur à propos du docteur Allen, de sa visite à Prague et de Simon Horn de Salem. Le jeune homme répondit, ou plutôt chuchota poliment, sans pour autant livrer aucune information, que le docteur Allen avait des talents de spirit qui lui permettaient de communiquer avec des âmes défuntes, et que s'il avait un correspondant à Prague, celui-ci possédait certainement les mêmes dons. En quittant l'hôpital, M. Ward et le docteur Willett convinrent qu'ils s'étaient fait manipuler et que Charles, sans donner la moindre information vitale, leur avait soutiré tout ce qu'il y avait à savoir de cette lettre de Horn. Les docteurs Peck, Waite et Lehman n'accordèrent guère d'importance à la correspondance extravagante du collègue de Charles Ward, car ils connaissaient cette tendance des malades mentaux à se regrouper entre eux, et ils pensaient que leur patient et le docteur Allen s'étaient trouvé un alter ego à l'étranger, un semblable qui sans doute avait vu l'écriture de Horn et s'était amusé à la contrefaire pour faire croire à sa réincarnation. Allen était sans doute un cas analogue et avait convaincu le jeune homme qu'il était la réincarnation du défunt Joseph Curwen. Des comportements similaires avaient déjà été observés. Quant à l'écriture de Charles qui inquiétait tant Willett, il l'expliquait par une simple imitation de manuscrits anciens. Willett, en revanche, avait fini par retrouver ce que lui évoquait cette écriture. Elle ressemblait à celle de Joseph Curwen. Les psychiatres considéraient ces faits comme un processus mimétique inhérent à la maladie de Charles et ne lui accordèrent aucune signification favorable ou défavorable. Compte tenu de cette attitude trop rationaliste, le vieux médecin recommanda à M. Ward de garder par-devers lui une lettre arrivée de Racus en avril, destinée au docteur Allen, dont l'écriture était identique à celle du texte codé de Hutchinson. Après un instant d'hésitation, ils brisèrent le sceau et lurent. Château Ferenczi, 7 mars 1928. Cher C, une escouade de 20 militaires a débarqué chez moi pour m'interroger suite aux rumeurs des villageois. La peste soit de ces Roumains et de leurs ailes ridicules quand un Magyar fermait les yeux pour un repas bien arrosé. Le mois dernier, M m'a procuré un sarcophage des 5 sphinx de l'Acropole. Il était bien là où celui que j'ai invoqué m'avait dit qu'il se trouvait, et j'ai eu 3 conversations avec ceux qui y reposaient. Je vais l'envoyer à S.O. à Prague, qui le vous fera suivre. Il est très entêté, mais vous savez la méthode à employer. Vous avez été bien inspiré d'avoir moins de monde avec vous que naguère. Il n'était nul besoin de conserver ces gardiens désœuvrés sous leur forme matérielle. Il n'aurait été qu'embarras en cas de problème, comme vous ne le savez que trop bien. Vous pouvez à présent déménager et travailler ailleurs, où j'espère nulle chose ne vous contraindra dans une voie si pénible. Je me réjouis que vous ne commerciez presque plus avec ceux du dehors qui ont toujours représenté un mortel péril, car vous savez bien ce qui arrive quand on demande la protection de celui qui n'est pas disposé à l'accorder. Vous m'avez surpassé en trouvant des formules que tout le monde peut réciter. Borellus avait pressenti que cela serait possible à condition de dire les mots correctement. Votre garçon les récite-t-il souvent ? Il fait de plus en plus montre de sensiblerie, comme je le redoutais quand je l'ai hébergé il y a 15 jours, mais je gage que vous saurez comment le traiter. Vous ne pourrez le révoquer avec la formule, elle ne fonctionne que sur ceux qui ont surgi des selles. Mais vous avez des mains robustes, un poignard et un pistolet, les tombes ne sont pas si difficiles à creuser et les acides ne refusent jamais de dissoudre. O me dit que vous lui avez promis BF. J'aimerais la voir aussi après. B doit vous rendre visite prochainement. Puisse-t-il vous procurer ce que vous souhaitiez de la chose obscure de Memphis ? Quoi qu'il en soit, soyez très prudent avec ceux que vous invoquez et méfiez-vous du garçon. D'ici un an, nous pourrons avoir les légions souterraines et alors, il n'y aura plus de limite à notre pouvoir. Ayez foi dans mes paroles, car vous connaissez O, et après tout, j'ai tout de même dans ces affaires 150 ans d'expérience de plus que vous. Nefreu Keneal Ladot, Ed H. pour J. Curven Esquire, Providence. Si le docteur Willett et M. Ward s'abstinrent de montrer cette lettre au psychiatre, ils n'en décidèrent pas moins d'agir. Aucune argumentation, même la plus scientifique, ne pouvait contester le fait que le docteur Allen, personnage inquiétant à la barbe teinte et aux fines lunettes fumées, décrit par Charles comme une menace monstrueuse, entretenait des relations avec deux individus également étranges qui prétendaient tout simplement être des survivants ou des réincarnations d'anciens amis de Joseph Curven de Salem, tandis que lui-même se prenait pour le sorcier de Pottuxet et nourrissait, ou à tout le moins se voyait conseiller, de noirs desseins vis-à-vis d'un garçon qui ne pouvait être autre que Charles Ward. Une abomination se préparait, et quel qu'en fût l'instigateur, le mystérieux docteur Allen en était à présent le cerveau. Aussi, en rendant grâce au ciel que Charles soit en sûreté à la clinique, M. Ward ne perdit pas un instant et confia à deux détectives le soin d'en apprendre davantage sur le mystérieux Allen, d'où il venait, ce qu'on savait de lui à Pottuxet et si possible où il était en ce moment. Il confia les clés du bungalow à l'un des hommes et leur demanda de commencer par fouiller sa chambre où il trouverait peut-être quelques indices. L'entrevue se déroula à nouveau dans l'ancien bureau de Charles et en partant, chacun éprouva un sentiment de soulagement. Était-ce parce qu'on leur avait parlé du sorcier dont le tableau naguère posait sur les visiteurs son regard malsain ? Était-ce pour une autre raison ? Toujours est-il que tous ressentirent, sans pouvoir l'exprimer, quelque chose de maléfique qui émanait du panneau désormais nu au-dessus de la cheminée.